Des paradoxes de l'innovation, l'innovation au service du non-changement en fait. J'ai essayé de travailler ça dans mon propos, et l'innovation au service de l'extinction de l'expérience. Alors la question qui est la mienne, c'est, pour le dire autrement, de quoi l'innovation est-elle le nom ? L'innovation est-elle instrumentable ? Oui, mais instrumentable jusqu'où ? Peut-elle servir précisément l'inverse de ce que sa définition suppose, à savoir l'émergence de nouveaux possibles. Donc une intervention qu'il ne faut pas juger à charge, mais simplement cherchant à définir ce que serait une part sombre de l'innovation, alors qu'elle se décrit comme une aurore, un commencement plus lumineux. Dès lors, l'innovation peut-elle s'assimiler au non-changement, s'inscrire dans un ordre conservateur, en somme, être l'inverse d'une socialisation de l'invention? Ou encore, comment le non-changement se sert-il de la notion d'innovation pour créer son acceptabilité? Parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Une fabrique du consentement, hein, l'innovation comme une fabrique du consentement. En reprenant la phrase de Gramsci, « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », on peut penser que la crise, c'est précisément quand la capacité et la dynamique d'émergence sont atteintes, lorsque le nouveau n'arrive pas à surgir. Ce serait ça, la crise. Il y a crise parce que l'innovation tarde. Mais l'on pourrait aussi définir la crise comme ce moment de perversion continue qui travestit jusqu'à la notion d'innovation, si bien qu'elle ne produit jamais du nouveau, mais la simple continuation de l'ancien sous des dehors de rupture. Bon. Voilà un peu le point. Alors dans « À la recherche du réel perdu », c'est un petit texte de Badiou, paru en 2015, Badiou narre comment nous produisons sans cesse une fausse définition du réel, un simulacre de définition tant le réel se confond avec la faible réalité sociale des mondes ambiants. Penser le réel, en effet, c'est d'abord ne pas s'y soumettre, c'est l'inventer, c'est solliciter en d'autres termes ce que j'ai pu étudier quand j'étais plus jeune, à savoir l'imagination créatrice, qui seule accède, comme l'a souligné Henri Corbin et d'autres, à des pans entiers du dit réel. Je cite Badiou, « Aujourd'hui, le réel, comme mot, comme vocable, est essentiellement utilisé de manière intimidante. Nous devons nous soucier constamment du réel, lui obéir. Nous devons comprendre qu'on ne peut rien faire contre le réel ou les réalités. » Ma question, c'est comment en est-on arrivé là à penser que le souci du réel serait nécessairement soumission, obéissance à la perception erronée de l'étant. Comment le souci, qui est une notion philosophique par excellence, est-il soumission au mensonge ? Quelle idée que l'on se fait du réel ? Et justement, il est des innovations techniques qui, précisément, en fait, semblent se soucier de ne pas se soumettre au réel, alors qu'elles font perdurer la soumission. Alors la soumission à quoi ? La soumission à la performance, à l'obligation de rentabilité au court terme. Symptôme, bien sûr, de ce phénomène, l'obsolescence programmée. Soit, je cite le législateur français, hein, c'est la loi sur la transition énergétique, 14 octobre 2014. L'obsolescence programmée y est définie ainsi, l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché, pas un metteur en scène, mais c'est un metteur sur le marché, vise à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle d'un produit afin d'en augmenter le taux de remplacement. Alors, juste un point, parce que avec Anders, bien évidemment, de l'obsolescence de l'homme, on a vu que, d'une certaine manière, l'obsolescence programmée est loin d'être, bien évidemment, une seule affaire technique. C'est d'abord, en fait, l'obsolescence programmée, une question d'imaginaire. C'est-à-dire, c'est la perception de l'obsolescence. Et en ce sens, l'obsolescence sociale, l'obsolescence psychique qu'on organise, on va dire, avec sa tête, la perception d'un objet qui devient obsolète. Et l'enjeu, c'est comment créer cette obsolescence sociale, comment créer cet imaginaire de l'obsolescence avant même de créer l'obsolescence technique. Parce que si vous créez trop l'obsolescence technique, vous pouvez, en tant qu'ingénieur, vous faire attaquer pour presque sabotage. Donc, vous ne pouvez pas faire ça tout à fait. Il faut, en fait, voir comment on trouve l'objet qui maintient l'illusion d'un désir, mais en même temps, l'objet qui, de lui-même, structurellement, va créer la perte relative de la valeur de l'objet. En somme, une grande partie de la création de valeur aujourd'hui, de ce qu'on appelle la valeur ajoutée, en fait, cette grande partie de la création de valeur, c'est comment créer le sentiment de la perte de valeur. Comment créer le désir de remplaçabilité? Comment augmenter ça? Sachant que qui dit remplaçabilité dit immédiatement, ipso facto, qu'on n'est pas dans l'innovation. Parce que l'innovation ne remplace pas. Elle vient, elle crée autre chose. Non, là, précisément, ça empêche l'inédit, la remplaçabilité. Alors, comment on crée cette illusion d'obsolescence avec cette idée que, par exemple, il y aura une dégradation de la performance. C'est pour ça qu'on veut un nouvel objet, parce qu'il sera plus performant. Mais encore une fois, la performance d'un objet n'est jamais réellement vécue. On le sait très bien. Donc en fait, là encore, on est toujours dans une histoire d'imaginaire, dans une histoire fantasmatique, puisque ce qui se dégrade, ce n'est pas la performance, c'est le sentiment d'une virtualité. Je change d'objet parce que mon sentiment est en train de se dégrader au sens où s'amenuise la virtualité de cet objet. Et donc je me dis, tiens, il faut que je change cet objet. Et c'est de Weber à Boltanski, on peut effectivement considérer que l'obsolescence, plus encore que l'innovation, ou d'une certaine manière l'obsolescence serait le nom de l'innovation, l'obsolescence est véritable esprit du capitalisme. Alors, en quoi cette non-permanence des objets est-elle un problème? On en a parlé d'ailleurs ce matin de cette question de la stabilité. Parce que cette non-permanence des objets participe à un sentiment, si on suit Arendt dans La condition de l'homme moderne, à un sentiment de désubstantialisation du monde extérieur. C'est la thèse de Arendt par rapport à la valeur de la pérennité des objets. Je cite Arendt, « C'est cette durabilité qui donne aux objets du monde une relative indépendance par rapport aux hommes qui les ont produits et qui s'en servent, une objectivation qui les fait s'opposer, au moins pour un temps, à la voracité de leurs agents et usagers vivants. » D'une certaine manière, les objets comme stabilisateurs de l'humanité et de l'homme. De ce point de vue, les objets ont pour fonction de stabiliser la vie humaine. Et leur objectivité tient au fait que les hommes, en dépit de leur nature changeante, peuvent recouvrer leur identité dans leur rapport avec la même chaise, la même table, etc. Alors l'enjeu d'une telle obsolescence programmée, tout simplement produire le non-changement. Le non-changement, comme l'ont décrit les théoriciens de Palo Alto, Bateson, Václavic, autres, c'est-à-dire du faux mouvement consumériste, organiser l'insatiabilité des individus vis-à-vis des faux-semblants, produire de façon récréative du simulacre. Et je cite « Changement, paradoxe et psychothérapie » dans l'ouvrage de Václavic et de Wickland. La phrase qu'on connaît tous, « Plus ça change, plus c'est la même chose ». Autre citation, « Aussi audacieux soit-il d'explorer l'inconnu, il l'est plus encore de remettre le connu en question. La permanence et le changement doivent être immédiatement envisagés ensemble. Sinon, on ne peut pas penser la question, bien sûr, de l'innovation et de l'invention. Et le changement de type 1 ne modifie pas la perception de la réalité, parce que le changement de type 1 propose toujours comme solution au problème A son inverse, non A, comme solution. Or, bien évidemment, non A n'est jamais la solution de A. Le changement, en fait, de modifie le cadre de perception. C'est la différence entre le fait d'être dans un cauchemar, de vouloir s'évader dans un cauchemar, et puis bien évidemment, l'exemple donné par Václavic, on se réveille. Et donc on fait un effet de rupture. Le seul souci, c'est que le réel et l'irréel sont dans la vie, et qu'il est difficile de savoir quand est-ce qu'on produit du vrai changement. Quel est l'imaginaire sollicité pour parvenir à une telle supercherie ? En rappelant comment le capitalisme a fait main basse sur le désir, qu'il est d'abord un régime particulier de désir, Lordon, Frédéric, dans « La société des affects » pour un structuralisme des passions, c'était en 2013, Lordon rappelle comment l'imaginaire de la marchandise est venu en fait structurer l'imaginaire de la vie individuelle, avant de déterminer les désirs du dit individu. Alors je cite Lordon, « À l'image de son régime des désirs et d'affects, et du seul fait qu'il s'y trouve inclus, l'imaginaire du capitalisme ne cesse de se renouveler. De même qu'il a ajouté aux seules perspectives de la misère à endiguer les images réjouissantes de la vie au milieu des objets marchands, le capitalisme néolibéral enrichit l'imaginaire fordien en s'efforçant d'ajouter aux affects joyeux extrinsèques de la consommation les affects joyeux intrinsèques de la réalisation de soi, dans et par le travail salarié. » Bon, ça a changé, on va dire, aujourd'hui. Et c'est bien, en effet, un enrichissement à ses yeux, puisque dans le régime de désir et d'affects du salariat, il ne devrait plus entrer seulement d'accéder à des satisfactions transitives, hétérogènes, à l'activité laborieuse elle-même, le travail comme moyen purement instrumental d'accéder à l'argent, mais il devrait aussi entrer d'investir l'activité en elle-même et pour elle-même, élevée du statut de moyen à celui de fin, et devenue intransitive, c'est-à-dire désirable en soi. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut dire ? L'imaginaire de la marchandise s'enrichit alors d'un imaginaire de la réalisation de soi par la vie salariale. Donc ce n'est pas l'imaginaire de la réalisation de soi qui a produit l'imaginaire de la marchandise, c'est ça que dit Lordon. Mais c'est bien évidemment l'imaginaire de la marchandise qui produit l'imaginaire d'une certaine réalisation de soi. Et ça, le subterfuge. L'imaginaire de la chose acquise comme sentiment ontologique de soi-même. Bien sûr, l'illusion ne peut perdurer. Pour qu'elle dure précisément, il faut l'obsolescence programmée, relativement masquée, pour substituer à la chose désormais déconstruite et défaillante dans sa capacité de combler une nouvelle chose, tout aussi fantasmatique, et dont le premier atout est de prolonger le voile de Maya. L'innovation est ainsi l'alibi privilégié, le plus à même de déconstruire aussi la culpabilité de l'individu. Il n'est pas dans l'accumulation, il est dans l'innovation. Il n'est pas dans le fait de combler un manque incurable. Il est dans l'innovation, donc précisément quelque chose de cognitif, qui finit toujours par se rendre compte de l'inanité de sa démarche désirante. Le nouveau, écrit Barthes, commentant Freud dans Le plaisir du texte, le nouveau, dit-il, n'est pas une mode, c'est une valeur, fondement de toute critique. Notre évaluation du monde ne dépend plus, du moins directement, comme chez Nietzsche, de l'opposition du noble et du vil, mais de celle de l'ancien et du nouveau. Pour échapper, poursuit-il, à l'aliénation de la société présente, en fait, il n'y a plus qu'un seul moyen, la fuite en avant. Tout langage ancien est immédiatement compromis, et tout langage devient ancien dès qu'il est répété. Or, le langage ancratique, celui qui se produit et se répand sous la protection du pouvoir, est statutairement un langage de répétition. Toutes les institutions officielles de langage sont des machines ressassantes. L'école, le sport, la publicité, l'œuvre de masse, la chanson, l'information redisent toujours la même structure, le même sens, souvent les mêmes mots. Le stéréotype est un fait politique. En face, il y a quoi ? Il y a le nouveau. Et c'est là où il fait, un commentaire de Freud. En fait, le nouveau, c'est quoi? C'est la jouissance. Et ici, Freud, chez l'adulte, la nouveauté constitue toujours la condition de la jouissance, et c'est dans au-delà du principe de plaisir. Pour s'extraire de l'aliénation ordinaire, de la normalisation, aliénation ordinaire de la normalisation qui est vécue comme contraignante, comme déceptive, en fait, qu'est-ce qu'on va substituer? Non pas une désaliénation, mais en fait une autre aliénation au principe de plaisir, et la boucle étant bouclée lorsque la norme du nouveau prend la main sur le désir des individus. Donc ça, c'était un premier point sur l'alibi que peut être parfois la notion d'innovation. Et puis j'ai parlé aussi au tout début d'une autre notion, celle de l'extinction de l'expérience. Alors la notion d'extinction de l'expérience, au départ, elle relève du champ de la psychologie de la conservation. Vous la trouvez chez Peter Kahn, par exemple, lorsqu'il parle d'amnésie environnementale générationnelle. En fait, sous-entendu implicitement, c'est d'abord l'extinction de l'expérience de la nature. Et Dieu sait si la technique a aussi un rendez-vous assez privilégié avec cette question d'extinction de l'expérience de la nature. Nous n'avons plus l'expérience de la nature, selon Pyle, selon Kine, qui sont psychologues des sciences de la conservation. Dans nos sociétés occidentales, nous perdons petit à petit le contact avec notre environnement naturel proche, par nos modes de vie de plus en plus urbains, mais aussi par l'adhésion au paradigme dominant qui considère que le progrès technique permet de nous affranchir du monde naturel, même si, on, bien évidemment, aujourd'hui, on sait que le progrès technique investit l'imaginaire de la réconciliation, voire même l'imaginaire de l'hybridation, au sens où il faut ouvrir la définition de ce qu'est une communauté politique en faisant pénétrer le vivant dans la définition de ce qui fait communauté. La conséquence prédite de cette déconnexion est que la nature faisant de moins en moins partie de leur construction identitaire, surtout en tant qu'enfants, nos concitoyens sont de moins en moins en demande de nature, ce qui permet aux politiques et autres décideurs de se sentir de moins en moins concernés. C'est l'hypothèse de base de l'extinction de l'expérience de la nature. Dans le domaine de l'innovation, si nous empruntons la notion, en fait, nous modifions quand même sa définition. Certes, l'innovation peut s'associer à un phénomène d'extinction de l'expérience de la nature dans la mesure où l'innovation favorise l'émergence d'un monde technique se substituant au monde naturel, mais la définition se fait plus extensive encore dans la mesure où la nature n'est pas l'unique lieu d'extinction de l'expérience. Même si nous faisons l'expérience des innovations permettant de cumuler des expériences, ou de cumuler des compétences, il n'en demeure pas moins que l'innovation favorise souvent l'extinction d'une autre expérience, du moins dans sa version massifiée. Alors bien sûr, l'ampoule électrique n'a pas mis fin à la chandelle. Elle en a déplacé l'usage. Une digression d'ailleurs, parlant de la flamme, et je ne parle pas de la flamme de façon anodine, bien sûr, on ne peut manquer de rappeler la définition de l'incandescence de l'imagination chez Bachelard et de ses différentes analyses de la flamme. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que l'imaginaire développé par l'ampoule électrique soit de même teneur. L'incandescence, c'est la découverte de la flamme intérieure, de la flamme qui nous anime et illumine le monde. L'imagination reste toujours une méditation de la flamme. Bachelard aime à nous rappeler que, je le cite, « la flamme est un monde pour l'homme seul » et que si le rêveur de flamme parle à la flamme, il se parle à soi-même et qu'il devient ainsi, par ce truchement de la flamme, poète. En agrandissant le monde, poursuit Bachelard, le destin du monde, en méditant sur le destin de la flamme, le rêveur agrandit le langage puisqu'il exprime une beauté de ce monde. La méditation de la flamme agrandit ainsi le psychisme de l'homme. L'homme, dans sa version première et accomplie, reste un rêveur de flamme. Mais ce que dit Bachelard de la flamme, il le dit aussi bien évidemment des autres éléments primordiaux, la terre, l'eau, l'air. Prendre conscience et connaissance du monde, c'est comprendre que le monde et la poésie de la terre, des flammes, de l'air et de l'eau ne font qu'un, qu'il n'y a pas de monde sans imagination de ce monde. Bien vivre, exister, courir le monde, ce sera d'abord s'éduquer à l'imagination. Si Bachelard associe tellement la flamme à l'imagination, l'incandescence à l'homme, c'est parce que la flamme symbolise plus encore que tout autre élément primordial, la solitude de l'homme. L'ontologie de l'être solitaire passe par la flamme. Ce qui n'est pas le fait que la flamme soit une image de la solitude qui importe. Ce qui compte, c'est que la flamme isolée est le témoignage d'une solitude qui unit la flamme et le rêveur. Et puis, comment oublier, là aussi, je cite Bachelard, qu'au cœur d'un rêveur de chandelle, quel retentissement il a ce mot « s'éteindre ». Quel est le plus grand sujet du verbe « s'éteindre », la vie ou la chandelle ? Et là encore, on va dire que l'imagination est en ce sens la faculté du sens vrai au sens où il s'agit de se souvenir de la mort d'une chandelle. La faculté qui se souvient de la mort d'une flamme, c'est aussi ça, l'imagination. Petite consolation, Bachelard nous rappelle que la flamme meurt bien, elle meurt en s'endormant. Et c'est sans doute pour cette raison qu'un homme, après avoir tant désiré un destin de feu, désirera un destin de flamme pour mourir tranquillement. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de façon anodine de cette question de la flamme, mais parce que nous savons qu'un des symboles privilégiés de l'innovation, c'est précisément celui de la flamme. L'innovation, cela reste cette promesse, et c'est cela aussi qui permet une instrumentation plus forte encore du désir de l'individu. Alors revenons à l'extinction de l'expérience. Ce phénomène, on peut l'analyser également avec Sénète, qui a été cité rapidement ce matin, je crois, par Antoine Picon, je crois. Lorsqu'il décrit, Sénète, comment le monde du travail est devenu l'espace majeur de l'extinction des expériences et des compétences. La compétence demeurant une quintessence de l'expérience, précisément ce qui s'acquiert par expérience. Et le sociologue fait ici le constat désarmant que l'ordre social émergent va contre l'idéal du métier, qui consiste à apprendre à faire une seule chose vraiment bien. Dans ce monde de l'entreprise, où le consultant est élu grand stratège, dit-il, la compétence a été définie comme la capacité de faire du neuf, plutôt que de puiser dans ce qu'on a déjà appris à faire. Le consultant doit tabler sur un élément clé du moi idéalisé de la nouvelle économie, la capacité d'abdiquer, d'abandonner la possession d'une réalité établie. Résultat, perversion oblige, s'impliquer profondément dans un problème quelconque est jugé dysfonctionnel. Bien faire les choses est sans valeur, voire contre-productif. Approfondir ses capacités, écrit l'auteur, par la pratique, va à contre-courant des institutions qui veulent des gens qui fassent quantité de choses différentes à bref délai. Tandis que l'organisation flexible a besoin de gens futés, elle connaît des difficultés dès qu'ils s'attachent au métier. Ainsi, un seul mot d'ordre, ne pas chercher à s'améliorer ni à parfaire son geste. De toute façon, pour chercher à bien faire, il faut du temps. Et d'une certaine manière, le sens obsessionnel de la focalisation, or le temps manque. L'économie mondialisée est une dictature de l'urgence, comme d'autres ont dit. Et la concentration, tout simplement, l'attention, est assimilée à un repli sur soi. Désormais, la compétence réside dans une hyper-adaptabilité, dit-il. Le travail n'est pas un bien, pas plus que son contenu n'est fixe, il devient plutôt une position dans un réseau qui ne cesse de changer. Dans l'économie moderne, qui se revendique sans vergogne société de la connaissance, parce que c'est toujours l'instrumentation cognitive de l'innovation, c'est-à-dire dans l'économie moderne qui se revendique société de la connaissance, les compétences ont la vie brève. Leur taux d'obsolescence effectivement, est considérablement augmentée aussi par les révolutions perpétuelles des technologies de l'information et de la communication. Donc l'extinction des compétences, voilà le nouveau mal des salariés, nouveau sésame peut-être des employeurs. Pas de carrière à valoriser, du recyclage dans le meilleur des cas. L'économie du marché du travail intervient ici de manière particulièrement destructrice. Un patron pourrait choisir, dit-il, soit de recycler un homme de 50 ans pour qu'il se mette à jour, soit de recruter un jeune de 25 ans, déjà prêt à foncer. Et tout simplement, il est beaucoup moins cher, rappelle le sociologue, de recruter le brillant jeune homme. Qui dit un employé plus âgé dit aussi peut-être une capacité critique plus appuyée, quelqu'un qui va ennuyer au sens où il va empêcher le déroulement d'une certaine performance. La machine économique, conclut Sennett, est sans doute en état de tourner avec profit et efficacité en faisant appel à une élite toujours plus réduite. De toute façon, la promotion de telles non-qualités provoque des déficits sociaux en termes de loyauté et en termes de confiance informelle. Et bien sûr, première victime, le prestige moral du travail, hein, qui accuse le coup. Mais il est possible également de parler d'extinction de l'expérience, non pas en se focalisant sur le monde du travail, mais là aussi en ayant une définition plus vaste, en rappelant les travaux d'Agaben ou de Benjamin. Qu'est-ce que, non pas la crise, selon les termes de Gramsci, mais qu'est-ce que le traumatisme? Ben précisément, le traumatisme, c'est ce qui atteint la capacité de faire expérience. Quand vous êtes traumatisé, vous n'arrivez plus à faire expérience. Vous vivez quelque chose, vous n'arrivez plus à traduire ce que vous vivez en expérience. Le traumatisme impacte à ce point le sujet qu'il n'est plus capable de faire expérience. Benjamin pense alors aux soldats ayant traversé la guerre de 14-18, les survivants de cette guerre. Et Agaben, qui reprend cet exemple dans Enfance et Histoire, destruction de l'expérience et origine de l'histoire, Agaben dit, voilà, quel est le mal moderne? Le mal moderne est précisément cette incapacité à transformer ce que nous vivons en contenu d'expérience. Tout discours, écrit Agaben, sur l'expérience doit aujourd'hui partir de cette constatation, elle ne s'offre plus à nous comme quelque chose de réalisable. Car l'homme contemporain, tout comme il a été privé de sa biographie, s'est trouvé dépossédé de son expérience. Peut-être même l'incapacité d'effectuer et de transmettre des expériences est-elle l'une des rares données sûres dont il dispose sur sa propre condition. Benjamin, dès 1933, avait effectivement diagnostiqué avec précision ce qu'il appelait, lui, cette pauvreté en expérience de l'époque moderne. Il l'a désigné comme une catastrophe conséquente de la guerre mondiale. Et il disait, les survivants des champs de bataille revenaient frappés de mutisme, non pas enrichis d'expériences susceptibles d'être partagées, mais appauvris d'expérience. Et c'était ça le signe du trauma. Alors, pour Agaben, bien évidemment, il se déplace, il n'y a plus de guerre, mais cette question de la consolidation de la pauvreté en expérience explique selon lui quelque chose de la modernité. Agaben, qu'est-ce qui caractérise l'homme moderne? C'est précisément son incapacité à transformer ce qu'il vit quotidiennement en expérience. Pas d'enrichissement, pas d'alchimie, juste la sédimentation des vécus qui viennent en couches successives rigidifier l'enveloppe de l'individu et contraindre son comportement. Je cite Agaben, « Nous savons pourtant aujourd'hui que pour détruire l'expérience, point n'est besoin d'une catastrophe. Il n'y a plus besoin de trauma, si j'ose dire. C'est bien là le problème. Il y a une routine qui est traumatisme. La vie quotidienne dans une grande ville suffit parfaitement en temps de paix à garantir ce résultat. Dans une journée d'homme contemporain, il n'est presque plus rien en effet qui puisse se traduire en expérience. Ni la lecture du journal, si riche en nouvelles, irrémédiablement étrangères au lecteur, même qu'elle concerne. ni le temps passé dans les embouteillages au volant d'une voiture, ni la traversée des enfers où s'engouffrent les rames du métro, ni le cortège de manifestants barrant soudain la route, ni la nappe de gaz lacrymogène qui s'effiloche lentement entre les immeubles du centre-ville, pas davantage les rafales d'armes automatiques qui éclatent on ne sait où, etc., etc. L'homme moderne rentre chez lui, le soir, épuisé, par un fatras d'événements sans qu'aucun d'eux se soit mué en expérience. Autrement dit, aujourd'hui, l'innovation n'est pas nécessairement le signe d'une nouvelle expérience à vivre, au sens où cette expérience viendrait densifier notre chemin existentiel. Petite incursion, il est assez désopilant aujourd'hui de voir que pour avoir le sentiment d'avoir vécu quelque chose, l'expérience seule ne suffit plus. Il faut l'interface technologique comme pour signifier que l'expérience a eu lieu ou nécessairement la mettre sous le regard de l'autre. Je n'arrive plus à faire expérience, mais allez, je vais tweeter l'expérience pour la partager et peut-être que ça, partager, viendra recréer une expérience possible de cette expérience que je n'arrive plus à faire. Revenons à l'extinction de l'expérience. La course à l'innovation obsolète, celle qui vient chasser l'autre pour mieux lui en substituer une, est si accélérée qu'elle laisse trop peu de temps pour en traduire l'intensité. C'est là un phénomène que l'addiction a bien mis en lumière. L'innovation devient la seule finalité. Et l'individu ne digère plus réellement l'apport promis par l'innovation. Car là encore, digérer l'innovation, cela nécessite du temps long. Cela nécessite de l'attention. Or, le temps, l'attention sont les denrées préférées du capitalisme qui cherche perpétuellement à les confisquer. Je vous renvoie aux publications de ceux qu'on appelle l'économie de l'attention, l'écologie de l'attention, qui montrent comment l'attention est devenue la première rareté et la plus précieuse source de valeur depuis le développement de l'industrialisation. C'est quoi l'industrialisation? Comment rester attentif sur une chaîne de montage? Le développement de la publicité, comment capter l'attention des consommateurs? Au régime de la fidélisation du capitalisme, s'est substitué un régime d'alerte. Je vous renvoie aux travaux de Berardi ou de Falkinger sur le sémiocapitalisme, qui font d'ailleurs la proposition iconoclaste suivante: pour rétablir la rationalité et la libre compétition dans une économie saturée par l'information, il faudrait imposer une taxe sur l'émission des signaux publicitaires qui biaisent la distribution optimale des ressources attentionnelles. Ce serait pas mal. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on redistribuerait aux consommateurs le revenu de cette taxe sur la pollution publicitaire. Alors, pourquoi le capitalisme génère, selon eux, si peu de contre-révolutions? Ce n'est pas du tout parce qu'il ne suscite pas de rejets, de polémiques. Pas du tout. C'est parce qu'il capte, plus encore que les richesses, l'attention des individus. Et c'est toute la thèse d'Aspect qui synthétise ainsi: la réussite du capital tient à ceci qu'il réussit chaque jour, pour chacun, à transformer le temps presse en « je n'ai pas le temps ». Et si les sujets ne sont pas dans la lutte, c'est avant tout parce qu'ils n'ont pas le temps de la mener. Du moins, en sont-ils convaincus. Alors, pour conclure, si les sujets, c'est là où le capitalisme cesse sa parenté avec l'état de droit pour retrouver sa vieille filiation avec l'exploitation de l'homme par l'homme. L'esclavage, d'ailleurs, n'étant ni plus ni moins qu'une captation répressive de l'attention. Le XXIe siècle, lui, préfère les captations divertissantes. L'économie de l'attention est une méta-économie dans la mesure où la surproduction nécessite de fabriquer du désir de façon ininterrompue. Et l'innovation joue un rôle considérable dans cette économie de l'attention. De l'innovation, on peut dire d'ailleurs ce que l'on dit de l'attention. À savoir, bien évidemment, qu'elle n'est pas qu'une affaire d'intelligence. On le disait au sens d'intelligare, faire du lien. C'est une affaire de lien. l'innovation. Sans doute le sens premier de l'intelligence en réponse à l'agression constante de l'attention, publicité, pollution numérique, bruit, stress, etc. L'appauvrissement émotionnel augmente. De son côté, l'attention comme concentration n'est pas séparable de l'attention comme prévenance. L'attention n'est pas un phénomène, bien évidemment, strictement cérébral. Elle est d'abord un phénomène social. De même, l'innovation n'atteint ses lettres de noblesse qu'à la condition de se socialiser, d'être pour le plus grand nombre et pas seulement pour soi. À l'inverse, nous pratiquons souvent une innovation qui a pour finalité celle-là même d'une addiction au sens où il s'agit d'échapper à une souffrance, d'échapper à l'angoisse, mais vouloir y échapper sans en payer tout de suite le prix fort, à savoir l'émancipation, le deuil, le renoncement. L'innovation permanente pour se donner le sentiment de ne renoncer à rien, de ne jamais faire l'épreuve de la limite, celle des seuils désinfantilisants. Le consumérisme de l'innovation, son marketing, son discours viennent renforcer la dépendance à l'innovation, mais en réalité la simple dépendance au narcissisme du sujet. Car encore une fois, un tel désir d'innovation cache mal, là encore, un vieux principe de jouissance identifié par Freud et plus récemment par Dany Robert Dufour. Le goût pour l'innovation relève trop souvent encore, dit-il, d'un régime de libido dominandi. La libido dominandi, c'est tout simplement la libération des passions et des pulsions d'avidité. Et il reprend, les trois libidos définis par saint Augustin, et puis il les réinvente en disant qu'aujourd'hui nous avons trois grandes libidos, la libido setiendi, qui est la libido de la chair, la libido dominandi, qui est la libido, la passion de posséder toujours plus et de dominer, et puis la libido siendi, qui touche bien évidemment à la passion de voir et de savoir. Et lorsqu'elle est instrumentée, l'innovation est l'alibi noble d'une fusion des deux modalités libidineuses. De nouveau, nulle charge contre l'innovation. Simplement rappeler ici la nécessité de déconstruction des innovations falsifiées, une vigilance. Et concernant cette vigilance, l'enseignement de Simondon est essentiel dans la mesure où il a voulu construire une théorie qui s'extrait des technophobies ou des technophilies excessives ambiantes et passant à côté de la nécessaire valeur de la technique et bien sûr de l'innovation en règle générale. C'est notamment dans « Du mode d'existence des objets techniques ». Il défend la technique non comme un instrument, mais comme une médiation. Il montre comment se constituent conjointement les techniques et leur environnement social et naturel. Et là, heureusement, la sociologie de l'innovation s'est beaucoup appuyée sur les travaux de Simondon pour rappeler la prégnance de la théorie, on en parlait un petit peu ce matin, de l'acteur réseau, pour comprendre le phénomène de l'innovation, le fait de ne pas la dissocier de ses controverses. Donc je m'estime participant de l'innovation en faisant cette petite intervention. Dès lors, la culture face à la technique ne peut agir comme, je cite, « l'armée vaincue et diminuée qui, ne pouvant défendre un camp de grande dimension, se retranche dans un angle de ce camp primitif et le fortifie sommairement. Ainsi, la culture dissociée et en état de crise se retranche dans le domaine réduit de la culture, de l'archaïsme, abandonnant les techniques aux forces extérieures et au désordre. » Ce sera là le projet de Simondon, d'inventer cette philosophie de la technique capable de s'extraire des simulacres et d'y réinscrire l'homme et surtout ce qu'il y a de plus précieux, son individuation. Penser à l'innovation comme intégration culturelle et sociale, voilà encore un défi profondément actuel. Je vous remercie.